Merci d'être au rendez-vous dans ce nouveau numéro du magazine Idées, celui qui interroge celles et ceux qui pensent le monde, passé et présent, pour peut-être envisager le futur. Nous allons parler de l'histoire et plus précisément de notre rapport au passé. L'histoire souvent remise en question par la mémoire, la tentation mémorielle, le mouvement postcolonial, par la culture de l'effacement, la cancel culture par exemple. De cette histoire qui ne passe pas, pour reprendre une expression souvent employée, nous allons parler avec nos deux invités. Pierre Vesperini, historien spécialiste de l'Antiquité, qui vient de publier un essai profond qui s'interroge « Que faire du passé ?» réflexion sur la cancel culture. Dans cet essai, Pierre Vesperini, qui estime que la cancel culture est un des problèmes les plus importants de notre temps, interroge notamment la notion de culture occidentale. Second invité, et non des moindres, Henri Laurence, le titulaire de la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France, qui lui nous propose « Le passé imposé », un essai dans lequel il écrit qu'il faut respecter le passé tel qu'il est ou tel qu'il a été reconstitué, non pas le condamner au nom de critères qui ne sont pas ceux de son temps. Fin de citation. Voici donc un nouveau numéro d'Idées, un magazine que vous pouvez retrouver également sur le site de la radio, RFI.fr, et votre plateforme numérique préférée pour l'écouter quand vous le souhaitez. Vous pouvez également vous y abonner. Bonjour Henri Laurence.
Bonjour.
Je suis ravi de vous avoir à ce micro. Vous êtes grand spécialiste de l'histoire du monde arabe, du monde de l'Orient. Vous êtes spécialiste des grandes épopées littéraires, si j'ose dire, auteur notamment des Crises d'Orient en deux tomes pour l'instant, chez Fayard, ou d'Oriental en trois volumes au CNRS édition, ou La question de Palestine en cinq volumes qui couvrait la période 1999-2015, il me semble, et je sais qu'il va y avoir une suite. Merci d'être à ce micro avec vous. Nous allons donc parler d'histoire, l'histoire aujourd'hui. Bonjour Pierre Vesperini.
Bonjour.
Merci d'être à distance avec nous, mais d'être avec nous quand même. Vous êtes grand spécialiste de l'Antiquité grecque et latine, auteur de deux livres qui ont fait du bruit, notamment « Droiture et mélancolie » sur les écrits de Marc Aurèle, c'était chez Verdier en 2016, et un autre ouvrage qui s'intitule « La philosophie antique, essai d'histoire » chez Fayard en 2019. Merci d'être avec nous pour évoquer la place de l'histoire aujourd'hui. Pierre Vesperini, le titre de votre livre, c'est « Que faire du passé ?» comme si nous étions embarrassés par ce passé.
Oui, c'est-à-dire que c'est la question que, me semble-t-il, pose la cancel culture aujourd'hui. Nous avons derrière nous un passé qui est constitué de faits objectifs. Et ces faits objectifs, eh bien, nous n'avons pas un rapport neutre à eux. Donc il y a une reconstitution du passé qui est faite par la mémoire, j'allais dire la mémoire officielle, celle qu'on nous enseigne à l'école. Et puis il y a aujourd'hui des groupes de militants, des groupes de jeunes, des groupes minoritaires, mais puissants dans leur action, qui exigent qu'on prenne en compte également d'autres aspects de ce passé qui n'étaient pas tellement pris en compte par la mémoire officielle. Et donc la question au fond qu'ils nous posent et qu'il faut se poser, je pense, avec eux, c'est que faire du passé ?
Henri Laurence, dans votre livre, vous citez Paul Valéry qui, dans Regard sur le monde actuel, donc ça date de 1931, écrit ceci. L'histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré. Ses propriétés sont bien connues, il fait rêver, il enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient leurs vieilles plaies, les tourmente dans leur repos, les conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persécution et rend les nations amères, superbes, insupportables et vaines. L'histoire justifie ce que l'on veut. C'est ça le problème de fond, Henri Laurence. Et Paul Valéry écrivait ça en 1931, il faut le rappeler.
Oui, bah on pourrait penser qu'il pensait à M. Poutine, par exemple, sur ce poison. Je pense qu'il pensait plus exactement au nationalisme de la Première Guerre mondiale et à la notion de droit historique. Et cette notion de droit historique, elle était essentielle dans la confrontation franco-allemande, puisque les Allemands revendiquaient au nom de l'histoire et de la culture l'Alsace-Moselle, et les Français la revendiquaient au nom d'une adhésion de ces populations à la France. Donc vous aviez ce conflit sur la mémoire, sur l'histoire, sur le passé, et qui était l'une des causes de la guerre mondiale.
Pierre Vesperini, vous êtes d'accord avec cette phrase de Paul Valéry, « L'histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré ?»
Non, je pense qu'il y a une confusion qui est faite entre l'histoire et l'instrumentalisation de l'histoire. C'est-à-dire que ce que fait Poutine, ce n'est pas de l'histoire, c'est de l'instrumentalisation de l'histoire. Et je pense que ce que nous, les historiens, nous devons faire quand nous faisons de l'histoire, c'est absolument pas élaborer des produits dangereux, sinon pour les pouvoirs qui veulent asservir les hommes. Mais je pense que quand nous faisons de l'histoire, nous élaborons des produits qui, au contraire, sont des produits bénéfiques et qui servent l'émancipation de l'humanité.
Henri, Laurence, vous écrivez que toute histoire est contemporaine. Ça veut dire qu'un historien ne peut pas échapper à son époque.
Absolument, puisque en fait, le travail de l'historien, c'est l'interrogation de quelqu'un à un moment présent sur un moment passé. Et en ce sens-là, il utilise les instruments intellectuels de son propre temps et il a donc une vision ou une interprétation qui est liée à son propre univers culturel. Ce qui explique pourquoi, indépendamment des sources documentaires, on peut continuer à faire des nouvelles histoires parce que les interrogations ont changé. Vous pouvez refaire l'histoire de la Révolution française à périmètre de connaissances identiques parce que vous poserez de nouvelles questions. Et vous pouvez refaire, bon, notre ami le sait mieux que moi, je sais pas, Athènes au 5e siècle sur un même périmètre de connaissances parce que vous posez de nouvelles questions.
C'est aussi votre avis, Pierre Vesperini, qu'il y a chez chaque historien, j'allais dire peut-être un parti pris, non ?
Il est tout à fait vrai que les interrogations que nous avons sont liées à notre ancrage dans un certain milieu, une certaine société, une certaine époque. Mais je voudrais pas que le public en tire la conclusion qu'au fond, notre travail est de part en part subjectif. C'est-à-dire que les interrogations changent au fil du temps, mais la connaissance progresse aussi au fil du temps, au fur et à mesure que justement nous nous détachons des préjugés des générations précédentes. Donc je ne parlerai pas de parti pris, mais que la relation au temps contemporain soit importante, oui. Simplement, voilà, je ne voudrais pas qu'on pense que finalement le travail de l'historien est toujours une espèce d'expression purement subjective et sans rapport avec l'objectivité de la connaissance.
Henri Laurence.
Non, je pense plutôt en termes d'instruments mentaux. Si vous prenez l'historiographie de la Première Guerre mondiale, la première génération des historiens, celle de Renouvin par exemple.
Et Renouvin
était celle du commandement, des responsabilités, les militaires, les politiques, etc. La seconde génération des historiens, celle qui n'avait pas connu la guerre d'ailleurs, qui étaient les enfants de ceux qui avaient fait la guerre, s'intéressait plutôt à la mobilisation des sociétés, l'instrumentation politique, l'économie de guerre, parce que ça correspondait aussi au socialisme, etc. Et puis la troisième génération ont travaillé sur la notion de victime, de souffrance, etc. Donc ce sont des connaissances additionnelles qui se font en fonction des interrogations de chaque temps.
Pierre Vesperini ?
Oui, absolument. Non, ça, c'est, sur cet exemple, je suis absolument d'accord.
Il faut aussi préciser, vous le soulevez dans votre livre, Henri Laurence, Le passé imposé, que le choix des objets d'étude varie également selon les époques, selon les générations d'historiens.
Alors, absolument. Là, nous, au Collège de France, nous faisons une révision générale très régulière de ce qui a été enseigné au Collège et ce qu'on devrait enseigner. Et on voit, par exemple, telle discipline historique a été longuement enseignée au Collège, mais ça fait depuis X années qu'on n'a plus un représentant sur ce sujet-là, et ainsi de suite. Donc, on peut examiner les changements de perspective par l'apparition ou la disparition de tel ou tel sujet. Si vous prenez à la fin du XXe siècle, vous aviez une multitude d'études sur la Révolution française, qui était liée aussi au cadre autour du bicentenaire. Et aujourd'hui, il y a eu quand même une diminution énorme de production d'études historiques. Il y a encore des gens qui travaillent, bien, mais on n'est pas à la densité qu'il y avait dans les années 1980-1990.
Alors, Pierre Vesperini, que faire du passé ? Réflexion sur la cancel culture, c'est donc le titre de votre livre, publié également chez Fayard. Une chose m'a d'abord intrigué, c'est que vous avez écrit ce livre, dites-vous, avec un sentiment d'urgence. Et vous soulignez que cette question de la cancel culture, de la culture de l'annulation, est pour vous un des grands problèmes de l'époque.
Oui, c'est vrai, et je le maintiens, même si moi-même j'ai des doutes sur cette idée, parfois, qui continue à m'habiter, parce qu'il y a évidemment, nous sommes confrontés à d'énormes problèmes aujourd'hui, ceux du réchauffement climatique, ceux de la crise des migrants, maintenant de la guerre en Ukraine. Mais néanmoins, je voudrais, maintenir cette position, parce que je pense que c'est un mouvement, c'est une espèce de révolution culturelle qui se passe notamment sur les campus, et je pense que les mouvements qui ont lieu sur les campus doivent toujours être pris très au sérieux parce qu'il s'agit de la formation de futurs formateurs, de futurs enseignants, et je pense que c'est un mouvement très grave parce que il risque vraiment de mettre en péril la transmission de la culture, la transmission de l'histoire, la transmission de la littérature. Et ce faisant, en mettant en péril la culture, il met en péril la démocratie, tout simplement. C'est-à-dire que les conséquences de ce mouvement, s'il devait prévaloir, seraient l'apparition de générations qui auraient une vision totalement puritaine, manichéenne de l'histoire et de la littérature et de l'art, et finalement de la condition humaine. Ça ferait donc des générations très peu préparées aux défis politiques qui nous attendent.
Henri Laurence, vous partagez cette inquiétude de votre confrère Pierre Vesperini ?
Ah oui, certainement. D'abord parce que cette cancel culture est construite sur le péché le plus terrible pour un historien, c'est celui de l'anachronisme. Essayer d'expliquer comment les choses se sont passées, c'est essayer de comprendre comment et pourquoi les acteurs du temps passé ont agi. Or, la cancel culture utilise des concepts d'aujourd'hui ou des visions morales d'aujourd'hui en le reportant sur un univers qui ne connaissait pas ses règles ou ses principes juridiques. Donc, on est totalement dans l'anachronisme. C'est le contraire de ce que fait l'historien qui appartient à son propre temps.
Pierre Vesperini, vous avez été intrigué dès le départ par cette notion de cancel culture et en intellectuel, en chercheur que vous êtes, vous avez essayé de comprendre, et dans ce livre « Que faire du passé », vous analysez dans une première partie la notion de culture européenne, culture occidentale, dont vous dites qu'elle a été marquée par le christianisme et bien plus tard par le capitalisme, et culture qui a abouti quand même à un sentiment d'arrogance, pour employer ce mot, et qu'il faut, dans un certain sens, comprendre le mouvement en retour que l'on met dans la catégorie cancel culture.
Oui, c'est ça qui est difficile, à mon avis. C'est que, bien sûr, le premier mouvement qu'on a, c'est un mouvement de rejet. Mais je pense que, et là j'ai agi, je vous dirais, pas tant en tant qu'historien, mais en tant qu'être humain, avec une espèce d'empathie, c'est-à-dire j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que des gens, par exemple, vont déboulonner les statues de Victor Schœlcher, ou pourquoi est-ce que des gens vont retirer la statue de Jefferson de la mairie de New York, au lieu de réagir uniquement en tant que jeune chercheur qui a été élevé dans les établissements de la République et qui, effectivement, face à ça, va tout de suite réagir de façon négative. Et je pense que si on essaye d'avoir une approche empathique, ce qui ne veut pas dire qu'on accepte ce qu'ils font, mais qu'on essaie de comprendre d'où ça vient, alors à ce moment-là, effectivement, on comprend que c'est absolument certain que l'Europe a engendré un certain nombre de catastrophes et d'injustices, lesquelles n'ont pas été relayées dans cette mémoire officielle dont je parlais tout à l'heure, dans ce récit que nous faisons de notre histoire dans nos écoles, dans nos établissements secondaires, supérieurs. Et donc, effectivement, je pense qu'elle, même s'il faut refuser les solutions qu'elle nous propose, il faut néanmoins, je pense, tenir compte des questions qu'elle pose, qui sont des questions réelles. Pour finir sur Jefferson, je m'arrêterai là, en travaillant sur Jefferson, du coup, à la suite de cette histoire de statut de Jefferson à New York.
Ah, il faut rappeler que Jefferson était un des pères fondateurs des États-Unis. Hein.
Oui, absolument. Et un grand ami de la France, un grand ami de la Révolution française. Et pour moi, c'était ça, Jefferson. Et puis, du coup, à cause de cette histoire de statut, j'ai voulu voir un petit peu ce qu'on lui reprochait. Et oui, je savais qu'il a eu des esclaves, mais je me disais un peu en historien, « Oh, mais à l'époque, tout le monde avait des esclaves, donc finalement, c'était le contexte, on ne peut pas l'embêter avec ça. » Mais j'ai été voir de près et j'ai été assez horrifié par ce que j'ai découvert. C'est-à-dire que, bien sûr qu'à l'époque, quasiment tous les pères fondateurs des États-Unis sont des propriétaires d'esclaves, etc. Mais néanmoins, ils sont parfaitement conscients de l'abomination de cette institution. Et ça, on le voit dans leurs lettres, dans leurs discussions, etc. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, ils ne vont rien faire. Et donc, c'est vrai que je peux tout à fait concevoir que des gens mettent en cause la mémoire de Jefferson. Encore une fois, ça ne veut pas dire pour moi qu'il faille retirer sa statue. Mais ce mouvement a au moins le mérite de nous faire voir des choses que nous ne voyons pas habituellement.
Pierre Vesperini, à propos de statut Henri Laurent, je vous propose d'écouter un reportage qui date du 11 juin 2020. Ça se passe à Londres, à propos de tags sur la statue de Churchill et d'autres choses encore. Correspondance alors de Marie Billon.
Winston Churchill était un impérialiste et même un raciste, selon des manifestants qui ont tagué sa statue devant le Parlement de Londres ce week-end. Autre exemple, la statue de Nelson qui trône au milieu de Trafalgar Square doit-elle tomber ? Horatio Nelson, le vainqueur de la bataille de Trafalgar lors des guerres napoléoniennes, était un partisan du commerce d'esclaves et était opposé à l'abolition. Cette fameuse colonne de 51 mètres de haut devrait faire partie des monuments passés en revue par la Commission pour la diversité dans les lieux publics, mise en place cette semaine par le maire de Londres. Elle est composée de 15 experts, historiens, historiens de l'art et représentants des communautés notamment. Le maire de Londres, Sadiq Khan, parlait ici sur Sky News.
Je pense qu'elle recommandera l'élimination de certaines statues. Par exemple, il y a des statues de marchands d'esclaves dans plusieurs endroits dans la capitale. Je pense que cette commission se prononcera contre le maintien de ces statues mémorielles.
Le maire de Londres n'a pas voulu donner de nom, mais il dit que pour certains, il est clair qu'elles n'ont rien à faire là. Les marchands d'esclaves, les propriétaires de plantations, par exemple. Le souci, c'est que si ces personnages ont eu droit à leur statue, c'est souvent qu'ils ont aussi eu une influence positive. Thomas Guy, par exemple, a fondé l'hôpital qui porte son nom au sud de Londres, mais il a aussi fait fortune grâce au commerce d'esclaves dans les colonies espagnoles d'Amérique. La tâche de cette commission ne sera donc pas évidente et elle ne se concentrera que sur la capitale. Or, à Oxford notamment, des étudiants ont à nouveau manifesté mardi pour qu'on retire la statue du colonialiste Cecil Rhodes du Collège Oriel.
écoutez le magazine Idées et cette semaine nous nous intéressons à notre rapport à l'histoire avec deux historiens. Pierre Vesperini qui est en ligne avec nous, qui vient d'écrire Que faire du passé, réflexion sur la cancel culture, un livre publié chez Fayard, et Henri Laurence qui est avec nous, qui vient d'écrire lui Le passé imposé chez le même éditeur Fayard. Que pensez-vous du reportage que l'on vient d'entendre, Henri Laurence, Ombre et lumière des grands personnages, et comment faire en sorte que dans la convocation des historiens, ces historiens puissent travailler, comme c'est le cas, ce fut le cas à Londres, avec des représentants de communautés, où là la mémoire et l'histoire s'entrechoquent.
Ah, on a d'abord la question de la mémoire, parce que les statues, ce n'est pas de l'histoire, c'est un lieu de mémoire, au sens où Pierre Nora avait développé sa série sur les lieux de mémoire, avec la vision d'un officiel d'une époque qui exprime le temps qui s'est passé, et ensuite nous sommes les héritiers ou les descendants. Ah, y a un risque supplémentaire que j'appellerais le complexe de Georges Marchais.
C'est-à-dire
que vous rappelez, Georges Marchais jadis disait que l'Union soviétique y avait un bilan globalement positif.
C'est vrai.
Et donc le risque, c'est de dire, bah, y a un bilan globalement positif du colonialisme ou de ceci ou de cela. Mais ce sont de toute façon là des jugements moraux. Moi, je reviens à la belle formule de Marc Bloch, qui était adversaire de Robespierre, partisan de Robespierre. Dites-moi enfin, qui était Robespierre ? Ce que doit faire l'historien, c'est de savoir qui était Churchill, qui était Cecil Rhodes. Si vous prenez Cecil Rhodes, il avait évidemment été un grand colonialiste, en Afrique du Sud. Il avait dédié sa fortune à des bourses pour unir les Blancs d'Amérique du Nord et d'Angleterre, ce sont les fameux Rhodes Scholars. Mais aujourd'hui, y a les Rhodes Scholars qui continuent d'exister, en particulier à Oxford, sont de toutes les couleurs de peau et de toutes les origines. La meilleure façon de, comment dire, pas de condamner, mais de gérer le passé, c'est de supprimer ces exclusions d'origine des bourses Rhodes, ce qui a été fait.
Cecil Rhodes, dont la statue demeure toujours sur place pour l'instant. Pierre Vesperini, Churchill est aussi au cœur de votre livre, et vous citez une anecdote assez drôle sur une visite du général de Gaulle, une visite officielle du général de Gaulle en 1960 à Londres, où les Anglais ont pris un luxe de précaution pour ne pas froisser le patriotisme du général.
Oui, en fait... Finalement, ils ne l'ont pas fait d'ailleurs, mais c'est un des fonctionnaires chargés de recevoir le général de Gaulle que la reine voulait recevoir vraiment en grande pompe. Un des fonctionnaires a commencé à s'inquiéter du fait que le général de Gaulle risquait de croiser des drapeaux français pris à la Grande Armée à Waterloo, dans tel hôpital militaire, etc. Et donc, effectivement, dans un livre très intéressant, De Gaulle vu par les Anglais, j'ai tombé sur ces échanges assez surréalistes entre donc ces deux fonctionnaires chargés de la réception et du protocole du général de Gaulle. Et finalement, le supérieur hiérarchique de ce fonctionnaire un peu inquiet lui a dit « Mais écoutez, il n'est pas question d'enlever tous ces symboles, toutes ces dépouilles prises à la France. De même, quand nous allons à Paris, nous ne formalisons pas de l'Arc de Triomphe de Napoléon, etc., etc. » Et ce que je dis à propos de cette anecdote, c'est que pourquoi est-ce que finalement tout ça ne pose aucun problème pour le général de Gaulle ? C'est premièrement parce que le général de Gaulle a une profonde culture historique et que la culture historique nous donne une grande leçon de relativisme. Nous savons, quand nous étudions l'histoire, que les points de vue diffèrent, que les points de vue moraux, les points de vue philosophiques ne cessent de différer. Donc, évidemment que le général de Gaulle ne va pas s'offenser de voir des drapeaux français pris à Waterloo. Mais deuxièmement, ce que je disais aussi, c'est que la différence entre le général de Gaulle et les jeunes gens qui militent pour le déboulonnement de certaines statues, c'est que le général de Gaulle est un homme... j'allais dire qu'il est complètement chez lui dans la culture européenne. Il n'est pas un homme qui est quotidiennement humilié ou menacé par la police, par exemple, quand il se promène dans la rue. C'est pas quelqu'un qui va être constamment contrôlé, dont on va contrôler l'identité en permanence. Donc, les groupes minoritaires à l'origine de la cancel culture sont des groupes qui ne se sentent pas, et j'ajoute à juste titre, qui ne se sentent pas reconnus légitimement dans les sociétés européennes, dans les sociétés occidentales actuelles. Et c'est cette situation de discrimination, d'inégalité, d'injustice qui, évidemment, engendre ces excès, qui engendre cette folie, parfois. C'est ça que je pense qui est important, c'est-à-dire de ne pas simplement dire « mais ces jeunes gens sont idiots ou sont fous, etc. » mais essayer de comprendre d'où vient ce problème. Voilà.
Oui, parce qu'il faut préciser, Pierre Vesperini, que l'Occident, que l'Occident, avec ses qualités, a aussi effacé beaucoup de cultures, de langues, et donc a fait du mal, a fait beaucoup de mal, même à certains peuples, sous certaines latitudes, etc., etc.
Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas se poser en disant « nous, les Occidentaux, nous sommes contre la cancel culture parce que nous ne respectons le passé. Nous n'avons cessé d'éradiquer le passé. » Nous avons effacé des centaines de langues, par exemple indiennes, en Amérique du Nord. Donc, tous les empires, toutes les sociétés passent leur temps à effacer du passé. Le passé que nous revendiquons face à la cancel culture n'est pas du tout un passé que nous aurions pieusement conservé. Ce passé est fait de quantité d'oubli, est fait de quantité de choses que nous mettons sous le tapis. Mais pour revenir à ce reportage sur Churchill, je pense que effectivement Henri Laurence a absolument raison de rappeler cette différence entre histoire et mémoire. Et j'aime beaucoup cette phrase de Marc Bloch qu'il cite également dans son livre d'ailleurs. Robespierriste, anti-Robespierriste, nous vous crions en grâce, dites-nous seulement qui est Robespierre. Mais simplement, justement, dans l'espace public, quand il s'agit de monuments, il ne s'agit pas de nous dire la vérité de Churchill, mais de savoir si oui ou non, nous devons aujourd'hui honorer Churchill. Voilà. C'est ça la question. Est-ce que nous devons rendre hommage à Churchill ? Et vous pensez à Emmanuel Macron qui disait du maréchal Pétain, il fut aussi un grand soldat, à propos de l'hommage polémique rendu à Pétain, où là encore, on confond histoire et mémoire. L'historien, évidemment, sait que Pétain est un des vainqueurs de la guerre de 14, mais faut-il pour autant penser que l'infamie du régime de Vichy n'efface pas cette gloire du vainqueur de 1918 ? Voilà. Donc ça, c'est un vrai problème. Et je pense que face à ça, il faut répondre au cas par cas. Il faut regarder au cas par cas. Et en ce qui concerne Churchill, je pense que il ne faut pas nier la réalité de son racisme, ce serait totalement, à mon avis, absurde, mais simplement rapporter ce racisme d'abord à son époque, mais aussi surtout la mettre en regard du fait qu'il a sauvé la civilisation face au nazisme en 1940. Et donc, quand on honore quelqu'un, on honore ce que les Romains appelaient des res gestae, des faits accomplis. Et cette seule res gesta, ce seul exploit d'avoir tenu bon face aux nazis en 1940, permet à mon avis qu'on dise aujourd'hui que malgré tout, malgré les crimes commis, il faut continuer à honorer sa mémoire.
Est-ce aussi votre avis, Henri Laurence ?
C'est que je reviens, le complexe de Georges Marchais, le globalement positif.
C'est-à-dire considérer qu'un personnage est une totalité d'action.
C'est une totalité d'action.
Et qu'on ne peut pas
récupérer. On peut dire positif ou négatif. Mais c'est un vrai problème. Mais la question, c'est un peu aussi la question de Chateaubriand. Quand en 1807, il dit l'historien est le vengeur des peuples. C'est qu'une attaque directe sur la Révolution française et sur Napoléon, évidemment, la réaction du pouvoir napoléonien a été terrible. Enfin, il a été exilé, mis en résidence, en quelque sorte, etc. Et est-ce que les historiens portent la vengeance des peuples ? Je ne pense pas, encore une fois. Et est-ce que nous devons, à la limite, porter des jugements moraux ? C'est un autre problème. Il faut d'abord savoir qui était. Alors là, ensuite, on rebascule vers la mémoire ou vers les mémoires. Et elles sont souvent extrêmement construites par des activistes politiques, etc. Et la cancel culture, bon, elle existe depuis la plus haute antiquité. On appelait ça la damnatio memoriae, la suppression de la mémoire. Et c'était pratiqué déjà...
En enlevant des statues, par exemple.
Ah, oui, bah, c'était déjà le cas dans l'Égypte antique avec la reine Hatshepsut, etc. Courbet a été accusé, à tort ou à raison, d'avoir été responsable de la destruction de la colonne Vendôme lors de la Commune de Paris. C'était aussi de la cancel culture, à un sens. Donc, ce n'est pas une dimension nouvelle. Ce qui est nouvelle, c'est sa généralisation. Et d'autre part, ça ne renvoie pas seulement à la question coloniale ou de l'expansion de l'Europe. Aujourd'hui, vous avez presque une campagne contre Picasso, parce qu'il a eu des aventures féminines un peu brutales, etc.
Pierre Vesperini, il y a un autre aspect, il y a beaucoup d'aspects dans cette question de la cancel culture, mais il y a un aspect qui vous intéresse directement, vous l'universitaire, le chercheur, le spécialiste de l'Antiquité, c'est une tendance, en tout cas aux États-Unis et dans quelques universités, de vouloir en quelque sorte supprimer, entre guillemets, les études grecques et latines, en tout cas l'apprentissage du grec et du latin.
Oui, c'est une tendance qui a abouti à ce que, dans le département de lettres classiques, disons, de l'université de Princeton, aujourd'hui, l'apprentissage du latin et du grec n'est plus obligatoire. Et cela, à la suite de deux, c'est une double campagne. Disons, la première campagne consiste à dire que finalement, l'obligation de l'apprentissage du latin et du grec favorise des héritiers, pour le dire avec Bourdieu. Et donc, si on veut ouvrir le département, eh bien, il faut supprimer cette obligation d'apprendre le latin et le grec. Et la deuxième campagne, c'est celle qui consiste à dire que la discipline des lettres classiques a été vraiment la discipline reine dans l'idéologie suprémaciste blanche, etc., aux États-Unis, et pas seulement. Bon, alors, à cela, effectivement, évidemment, c'est une position que je critique pour deux raisons. La première, c'est que cette suppression de l'apprentissage du latin et du grec va en réalité reconduire à la discrimination, parce qu'il y aura des classicistes qui sauront le latin et le grec et d'autres qui ne sauront pas. Donc, du coup, forcément, on va favoriser les mêmes et discriminer les mêmes. Donc, les uns se retrouveront, je ne sais pas, professeurs à l'université et les autres, je ne sais pas, guides touristiques ou autres. Et puis, deuxièmement, il est vrai que la philologie classique a en partie liée avec l'idéologie de la supériorité, de la civilisation blanche, etc., mais c'est une idéologie qu'elle a partagée avec toutes les disciplines universitaires. Tous les savants du 19e siècle partageaient cette idéologie, à quelques exceptions près. Donc c'est une campagne totalement absurde.
Henri Laurence, dans votre livre Le passé imposé, vous nous rappelez que l'Occident, en fait, pour parler large, a créé une histoire universelle. Ça a eu l'ambition de créer une histoire universelle, c'est-à-dire une vision du monde vue d'Occident, donc. Et cela pose aussi la question aujourd'hui des études postcoloniales et de la vision qu'a eue l'Occident du monde, et notamment l'orientalisme, vous en êtes le spécialiste, enfin en tout cas de cette question. Et je propose d'écouter un homme qui a beaucoup fait pour développer, en quelque sorte, peut-être malgré lui, j'en sais rien, ses études postcoloniales, c'est Édouard Saïd, avec son célèbre livre, L'orientalisme. Et je vous propose de l'écouter parler précisément de l'orientalisme. C'était sur RFI, sur notre chaîne, dans l'émission Carrefour, le 5 novembre 1980.
Moi, je dis que la croissance de l'orientalisme suit la croissance de l'occupation occidentale de l'Orient. C'est-à-dire les deux choses vont ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils sont la même chose, mais ils participent tous les deux dans le même travail. La chose la plus importante, symbolique, est que partout dans tout ce travail, l'Orient reste inerte. Dans les textes orientalistes du 19e siècle, par exemple, ce qui intéresse l'orientaliste, ce n'est pas l'Orient actuel, seulement, c'est l'Orient classique, c'est l'image de l'Orient, c'est-à-dire c'est l'Orient comme paradigme de quelque chose d'autre, de l'Antiquité par exemple, de l'origine des civilisations. Et les Orientaux sont ou des indices de quelque chose d'autre, les Orientaux contemporains, ou des sujets qui doivent être maniés, si vous voulez, dirigés. Il y a toujours, comme j'ai dit, un déséquilibre entre le sujet qui est inerte, passif, dominé, et le spectateur orientaliste qui regarde, qui examine. Alors l'attitude scientifique est toujours à la dépense de l'individu oriental.
Vous avez écouté Edouard Saïd avec une grande attention. Je rappelle que vous êtes spécialiste de cette région du monde, de l'histoire de cette région du monde. Vous écrivez dans votre livre qu'Edouard Saïd fournit d'excellents repères pour saisir l'évolution du postcolonial, des repères chronologiques en tout cas.
Oui, d'abord parce qu'il a été considéré, c'est un moment considéré comme le père du postcolonial, et puis au bout d'un certain temps d'ailleurs, il a pris ses distances exactement pour les raisons que notre ami vient de dire, parce qu'il a vu le danger pour les études littéraires d'une sorte de cancel culture qui existait déjà de son temps. Je veux dire, il est mort au début des années 2000. Mais il avait déjà parfaitement senti le danger. Et lui-même, à Columbia, continuait d'enseigner les classiques de la littérature anglo-saxonne. Il était quelque part défenseur d'une culture classique, même s'il a été considéré comme un père du post-colonial. Alors, c'est évidemment quelque chose qui porte sur la notion de ressentiment. Et dans la cancel culture ou dans le post-colonial, vous avez cette dimension contemporaine du ressentiment qui est absolument énorme et qui est quelque part toujours en permanence dans le rapport entre le monde dit occidental et les autres.
Et précisément, est-ce qu'il y a l'inverse, en fait, une vision des Orientaux sur l'Occident ?
Ah bah oui, par définition. D'abord, selon les époques, les Portugais arrivent en Inde, les Indiens se posent quand même quelques questions. Là. Pierre Sangarevelo avait montré il y a quelque temps combien la cartographie de la Chine, du Japon et de l'Inde aux époques dites classiques 16e, 18e intégrait déjà l'Europe et les Amériques dans les cartes produites de façon entre guillemets indigène, mais en même temps, les Chinois ou les Indiens se posaient comme étant au centre du monde, ce qui est le cas de toutes les cultures. Vous savez, moi, quand j'étais à l'école communale sous la 4e et 5e République, le cours commençait, la France est au centre de terres émergées. Donc ça nous laisse assez rêveurs, mais nous sommes toujours quelque part au centre du monde. Non, ce qui se passe, c'est deux choses essentielles, je parle en tant qu'historien. La première, c'est qu'il est arrivé à un moment où une région du monde a été dans la capacité de construire un discours historique intégrant l'ensemble de l'humanité. Et ça, c'est ce qui se passe dans l'Europe du XVIIIe siècle, où on a des connaissances allant du Japon jusqu'aux Amériques. Et donc, vous pouvez avoir des œuvres déjà globales, soit de réflexion sur l'histoire, comme chez Montesquieu, soit d'histoire universelle, chez Voltaire, sans parler de la publication de tas d'histoires universelles en 40 ou 50 volumes qui se font déjà dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et la seconde chose essentielle, c'est que la volonté européenne d'expansion, sur en tout cas l'ancien monde, se construit sur un discours temporel qui était que ce qui n'était pas européen était dans le passé, tandis que ce qui est en Europe ou en Occident constitue l'avenir. Donc l'expansion coloniale de l'Europe est la première expansion au système de domination dans l'histoire de l'humanité qui se construit sur une flèche temporelle du futur. Le discours dit de la civilisation, etc. C'est-à-dire, nous allons réintroduire les autres dans la flèche du futur pour qu'il devienne quelque part dans un temps relativement lointain, parce qu'à l'époque, en 1850, on ne pense pas que ça se fera en 10 ans, qui nous rattraperont. Donc, le colonialisme, c'est aussi un rapport au temps. Et là, Édouard Saïd, évidemment, le saisit très bien de l'autre côté. Mais ça implique que de l'autre côté, il y a un occidentalisme. Parce qu'il faut comprendre d'abord pourquoi on est dominé et comment s'en sortir de cette domination. Et si on prend les dimensions du XXIe siècle, on peut dire, par exemple, que dans le monde musulman ou même africain, vous avez un vaste ressentiment, ce qu'on retrouve dans cette cancel culture, tandis qu'en Asie, en Inde ou en Chine, on a un sentiment de revanche historique. Quand Mittal contrôle la sidérurgie européenne, c'est une revanche sur l'histoire.
Pierre Vesperini, comment faire pour passer outre cette culture du ressentiment en tant qu'historien ? Vous dites qu'il faut en venir à quelques valeurs, à une valeur humaniste.
Oui, en fait, justement, je voulais un peu rebondir sur cette notion de ressentiment. Parce qu'il se trouve que, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la cancel culture, je lisais récemment un recueil de textes de Vladimir Jankélévitch qui s'appelle « La pensée de la résistance », je crois, ou « L'esprit de la résistance », qui rassemble toute une série de discours, de circonstances, de textes, de circonstances qu'il a écrits de la libération à sa mort, autour de la Shoah, autour du souvenir de l'occupation, etc. Et ce qui m'a frappé en lisant ce livre, c'est à quel point, finalement, quand j'avais 20 ans, on parlait énormément de la Shoah, c'était l'époque des procès Touvier, Papon, etc. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point cette période-là était en fait une parenthèse dans une longue période d'oubli et de volonté d'effacer les crimes du passé, et ce qui nous amène aujourd'hui à Éric Zemmour. Et ce qui m'a frappé beaucoup, c'est que je me suis rendu compte que à l'époque, quand des gens comme Jankélévitch demandaient qu'on se souvienne d'Auschwitz, qu'on se souvienne de la Shoah, quand ces gens protestaient contre les lois d'amnistie votées dès le début des années 50 pour les crimes commis pendant l'occupation, eh bien on parlait de ressentiment. On disait « Oh, mais ces Juifs, ils nous embêtent, finalement, ils devraient oublier le passé, oui, le passé, et finalement, ils font preuve de ressentiment ». Et je me demande, pourquoi est-ce que nous sommes choqués aujourd'hui qu'on puisse parler de ressentiment à propos de gens comme Jankélévitch ou de rescapés de l'occupation, et pourquoi nous devrions parler de ressentiment à propos de populations issues des peuples colonisés. Moi, je ne pense pas qu'il s'agisse de ressentiment. Je pense qu'il s'agit exactement comme dans le cas des rescapés de la résistance ou de la Shoah, il s'agit simplement d'une demande de reconnaissance d'un passé qu'on ne veut pas reconnaître. Donc je pense que face à cela, il faut affronter ce passé avec courage, sang-froid. Et je pense que c'est un peu... Moi, je ne me sens pas autorisé. N'ayant absolument pas souffert de discrimination, du racisme, etc., je ne me sens pas autorisé à dire à ces gens « vous êtes du côté du ressentiment ». Je pense que leur demande est absolument légitime.
Henri Laurence ?
Oui et non. Il est évident, quand vous avez souffert directement dans votre vie, dans votre corps, des terribles épisodes de l'histoire. Les anciens combattants de la guerre de 14 souffraient encore 60 ou 70 ans après des souffrances qu'ils avaient vécues. Ils les revivaient la nuit, ils hurlaient la nuit, etc. Il y a donc la souffrance vécue. Et ça, c'est une souffrance insurmontable, en quelque sorte. C'est celle des survivants des grandes catastrophes. Et puis, vous avez la souffrance transmise, qui justement se fait au nom de la mémoire, parce que là, les gens ne l'ont plus vécu. Et donc, on est aussi dans l'ordre de l'imaginaire, mais en même temps, c'est ce qui permet de constituer des groupes, des communautés. Une amie arménienne me disait un jour, si les Turcs reconnaissent le génocide arménien, nous, les Arméniens, nous disparaissons. Parce que le trait d'union d'entre nous arméniens, c'est cette exigence de reconnaissance. Et d'autre part, vous avez le fait que tout groupe humain réagit à l'actualité de l'immédiateté par rapport à sa mémoire historique. Les protestants français qui ont souffert des répressions de Louis XIV ont réagi différemment des catholiques français qui n'avaient pas ça, puisqu'ils ont par exemple accueilli les juifs dans les Cévennes durant la Seconde Guerre mondiale parce que c'était un réflexe de persécuter à trois siècles ou deux, trois siècles de distance. Donc la mémoire historique conduit à la fois à un fait de transmission, mais aussi à une réaction. Si vous appartenez à un groupe X qui a souffert à un moment précis de l'histoire pour de telles raisons, et un micro-événement fait revivre dans ce groupe les souffrances du passé. Alors que dans le groupe Y qui n'a pas cet héritage mental, ne réagira pas de la même façon.
Pierre Vesperini, pour conclure cette émission, car le temps passe, je vous repose la question à propos de ce que vous appelez la culture humaniste, à ce retour que vous prônez à la culture humaniste. Ça veut dire quoi concrètement en tant que vous qui êtes historien spécialiste de l'Antiquité ?
Eh bien, ça veut dire simplement aborder le passé sans avoir une attitude que j'appelle sacerdotale. C'est-à-dire en considérant les grandes figures du passé, les grands textes du passé comme des espèces de vaches sacrées qu'on ne peut absolument pas critiquer, qu'il faut simplement célébrer sous toutes les formes. L'attitude humaniste, c'est un peu celle qui pose la question comment est-ce que ça s'est fait ? Comment est-ce que ça s'est produit ? Qu'est-ce que c'est que cette œuvre ? Qu'est-ce que c'est que l'Énéide ? Pourquoi est-ce que quelqu'un a écrit l'Énéide à un moment donné ? Vous voyez, il y a un très beau texte que j'aime énormément de Peggy dans Clio, où la muse de l'histoire, donc Clio, dit à Peggy de lire Homère comme si c'était le feuilleton du jour. Bon, aujourd'hui, on dirait comme si c'était une série qui venait de sortir, quoi. Et c'est ça l'attitude humaniste, c'est l'attitude qui consiste à se poser la question du comment. Comment est-ce que ça s'est fait ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Par ailleurs, je pense que l'attitude humaniste est aussi celle qui n'est pas simplement celle du scientifique, qui n'est pas simplement celle du philologue, mais c'est celle aussi qui essaye d'adopter le point de vue de l'autre, que ce soit les acteurs de la cancel culture, que ce soit les anciens, qui essaye de sortir justement de son immédiateté, de ses réflexes, et sortir de soi-même, aller à la rencontre de l'autre, au nom justement de cette condition humaine commune.
Henri Laurence, en un mot.
Je reprendrai un peu ce que disait Umberto Eco à propos de la littérature. Il disait, avec la littérature, on peut vivre plusieurs vies. Mais avec l'histoire, avec le passé, on a des vies multiples. Un historien passe son temps à se mettre à la place d'eux. Et donc, il a un nombre de vies incroyable. Et ce qu'il doit essayer, c'est de faire passer toutes ses vies à ses lecteurs.
Merci Henri Laurence. Votre livre s'intitule « Le passé imposé », il est publié chez Fayard. Merci Pierre Vesperini. Votre ouvrage s'intitule lui « Que faire du passé ? Réflexion sur la cancel culture », lui aussi édité chez Fayard. Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité. Dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, des informations du monde sur RFI.